vue d'ensemble de l'actualité.
Un couvre-feu qui va s'appliquer à la région Île-de-France. Le virus circule très activement. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin. Et il commencera à partir de ce samedi 0h. Il durera 4 semaines.
Trêve PM.
Alors, c'était le président Emmanuel Macron, président français, donc, qui annonçait cette mauvaise nouvelle à ses compatriotes hier. Mais évidemment, ils n'ont pas le choix parce que, comme le disait Luc un peu plus tôt dans cette émission, en France, ça va vraiment pas très, très bien, mon cher Luc.
Ça va extrêmement mal en France à l'heure actuelle. C'est probablement le pays là, qui goûte le plus fort au moment où l'on se parle. Mm. Le premier ministre lui-même avait utilisé des chiffres tantôt pour démontrer qu'en pourcentage, ce sont eux qui sont frappés le plus fort.
Ouais.
C'est vraiment un état de crise. Là,
Qu'est-ce qui s'est passé, Luc, avec ta lecture? Tu lis beaucoup, puis tu suis, tu nous fais un résumé du portrait de la COVID à travers la planète, jour après jour. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ils l'ont-tu échappé? Qu'est-ce qui est arrivé?
Ils l'ont échappé dès la première vague, parce qu'au départ, il n'était pas... Tu vois, le virus est venu de la Chine vers la Corée, de l'Asie, a passé par l'Iran et s'est retrouvé en Italie quand des chercheurs iraniens sont allés participer à une conférence internationale qui avait lieu, je crois que c'était à Milan. Et de là, il a commencé à s'étendre dans les pays limitrophes. Donc, la France a fini par être touchée. L'Italie, c'est juste à côté. Et soudainement, en France, le système de santé que j'ai toujours considéré, mais je me rends compte que, on pensait, toi aussi, je pense, on en a déjà parlé.
Oui, c'était le meilleur, probablement
le meilleur au monde. Le meilleur au monde. Il a flanché complètement. Il s'est effondré. Le type de problème qu'on a connu avec notre système de santé au Québec, on en a vu des semblables en France. On a même vu quelque chose de semblable concernant le port du masque aussi, souviens-toi. Au début, en France, le langage que le docteur Arruda tenait ici au Québec, puis le premier ministre Legault, c'est-à-dire porter le port, ça vous donne une fausse sécurité, c'est exactement le même langage que tenaient Macron et ses ministres en France. Mais la réalité, on la sait aujourd'hui, ils tenaient ce langage-là uniquement pour une raison, c'est qu'il n'y en avait pas de masque à donner aux gens. Alors, il fallait les convaincre que c'était pas important, parce que si on l'avait dit que c'était important, ça aurait été une crise épouvantable, il n'y en avait pas.
Oui, puis on voulait le garder pour le personnel de
la
santé.
Alors, il y a eu une rupture. M. Legault a utilisé ce terme-là la semaine passée, parlant du système de santé au Québec, le danger d'une rupture. Mais en France, il y a eu une rupture. Comme en Italie, mais en Italie, c'était localisé, n'est-ce pas?
C'était dans
Milan,
le nord,
puis bon, c'est la Lombardie là, qui était là. Ça s'est étendu ailleurs, mais c'est là que ça a été le plus dur. Tu as deux pays où ça s'est étendu partout en Europe, trois, je dirais plutôt. Le Royaume-Uni, la France, puis l'Espagne. Puis là, la France...
La Belgique aussi, ça a été dur.
Effectivement, ça a été très, très dur. Mais je parle des pays à grande population.
D'accord.
Parce que l'Allemagne, ça n'a pas donné le coup que ça a donné en France, ça n'a pas donné le coup aux Pays-Bas. En France, ça a été dur. Et là, il arrive avec le couvre-feu. Écoute, on n'a pas vu ça depuis la guerre d'Algérie, un couvre-feu.
C'est pour ça que je voyais des images d'archives tout à l'heure quand il parlait je voyais ça à la télé, il parlait de la France, puis je voyais des images d'archives de la guerre d'Algérie.
Au moment où l'OAS a commencé à faire sauter des bombes à Paris, ils ont imposé un couvre-feu. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Alors, la situation est très grave, puis elle est loin d'être sous contrôle, puis on voit pas vraiment comment on va s'en sortir.
Très bien. En tout cas, on va continuer à suivre.
En plus, je l'ai mentionné, je l'ai oublié, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, il y a eu une perquisition policière chez lui hier.
Dans son bureau de ministre?
Dans ses bureaux à Paris.
Dans ses bureaux de ministre.
T'as raison de le souligner, c'est dans ses bureaux de ministre.
Mais pourquoi?
Ils appellent ça une information judiciaire qui a été ouverte par la Cour de justice sur la gestion de la crise sanitaire du COVID-19. C'est incroyable quand même, hein?
Ils étaient déjà dans un mode on veut savoir, ce qui a mal été.
Si la Sûreté du Québec dans les bureaux d'Arruda ou dans les bureaux de M. Dubé, de Christian Dubé.
Ou de Mme McCann.
Souviens-toi qu'en France, quand il y a eu le scandale du sang contaminé, on parle des années 90, en France, ils avaient porté des accusations contre plusieurs politiciens très en vue.
Y compris Fabius, le ministre de la Santé. Là,
effectivement.
Oui, tu as raison, tu as raison.
Alors, ça aboutit nulle part, là, mais oui, c'est très français, puis ils ont un système de justice pas mal différent du nôtre, faut le savoir.
Oui, mais il faut pas présumer que ce ministre de la Santé sera accusé de quoi que ce soit.
Ah mais... non, il faut pas présumer de ça, mais il faut présumer que la tension est élevée pas mal quand t'en viens là.
D'accord. Ouais. Parlons un petit peu de la Chine, parce que...
Parlons de la Chine et de cette nouvelle qu'il y a dans le Journal de Montréal ce matin.
Ouais.
Tout ça se tient ensemble. Le Journal de Montréal, c'est un texte à lire, d'ailleurs. Il apparaît que Ottawa et les services canadiens responsables d'Investissement Canada, qui doivent toujours donner leur approbation quand il y a un investissement étranger au pays, seraient très inquiets de la présence d'une très grande entreprise chinoise au sein d'un projet d'agrandissement de 775 millions de dollars au port de Québec. Cette co-entreprise, on y retrouve le Canadien National, puis on y retrouve Port Hutchison Canada.
Oui.
Port Hutchison Canada, c'est une entreprise chinoise, c'est une filiale de CK Hutchison, c'est une gigantesque entreprise. Le propriétaire, principal actionnaire, est quelqu'un qui s'appelle Li Ka-shing, dont on a beaucoup entendu parler au Canada pour toutes sortes de raisons, entre autres parce que dans les années 90, Li Ka-shing avait décidé d'acheter Husky Energy. Et déjà, on commençait à se dire, est-ce qu'on peut laisser aller des choses aussi fondamentales que l'énergie à un pays qui n'est pas nécessairement un pays ami? Ultimement, il avait gagné Li Ka-shing. Et non seulement ça, il y a une présence très forte au Canada. Tu sais, les grands édifices devant le lac Ontario à Toronto, là,
oui,
il en
oui.
possède quasiment la moitié à lui tout seul. Alors, le gars a double nationalité. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'Ottawa se préoccupe de ça?
Oui.
Ben là, comprends-tu, il faut revenir, et je vais le faire très brièvement, au concept, au projet gigantesque, éléphantesque, titanesque, je connais plus les mots pour choisir, qu'on appelle la route de la soie. C'est un projet qui a été lancé en 2013 par la Chine de Xi Jinping et qui vise à créer un continent qui existe de facto, mais qui a jamais été branché ensemble, l'Eurasie. Donc, de l'Asie, juste de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, ils construisent quoi? Des ports de mer, des TGV, des trains à grande vitesse, des aéroports, des réseaux de fibre optique. On parle d'un budget possible de 10 000 milliards de dollars.
Wow.
Et pourquoi ils font ça? Bon, d'une part, parce qu'ils veulent être capables d'écouler leurs exportations, mais on pense aussi que c'est parce qu'ils sont c'est un rêve hégémonique qu'ils sont en train de vivre à travers la recréation de la soi-disant route de la soie.
Mais ça irait jusqu'où, ça?
Commencera au Pacifique, puis ça finira à l'Atlantique. Par exemple, je te donne un exemple.
Ouais.
Bientôt, là, ils sont en train de commencer à travailler sur un projet de TGV qui va rejoindre Londres et Pékin. Ça va prendre 48 heures en TGV faire Londres et Pékin.
Ben voyons donc.
Ils ont déjà des trains de marchandises qui partent de la zone commerciale de Shenzhen, puis qui s'en vont en Europe. À l'heure actuelle, ça prend à peu près 14 jours avant que le projet aille de l'avant, puis il est juste pas complété. Ça prenait environ 30-35 jours passés.
OK, mais c'est quoi l'intérêt, Luc, mettons, d'un gouvernement, de l'État français, du gouvernement français ou du gouvernement britannique, des gouvernements européens sur lesquels passe la ligne de train en question ou sur lesquels seraient construits d'éventuels ports, terminaux maritimes et tout le reste? C'est quoi? C'est de rapprocher...
Ben, c'est que tu mets tes infrastructures entre les mains d'un pays qu'on voit à l'heure actuelle comme le nouvel ennemi de l'Occident, la nouvelle guerre froide.
Ah ouais, mais t'es pas obligé d'accepter ça. C'était un gouvernement.
Ils sont pas obligés d'accepter ça, sauf que quand t'arrives avec le cash, à l'heure actuelle, il y a 68 pays contenant 4,4 milliards d'habitants et 40% du PIB mondial qui ont accepté de joindre au projet. Les Chinois financent.
Ouais, c'est
alors,
ça.
Je sais pas si tu vois.
C'est
les
ça, c'est
Chinois,
que t'as des investisseurs chinois, des groupes financiers qui débarquent, mettons, en France, puis qui disent, on va développer, on va agrandir le port de telle ou telle ville, ou on va construire
un aéroport, un nouveau réseau de fibre optique.
C'est sûr, puis là, ils te mettent de l'avant les jobs que ça va créer, les revenus que ça va rapporter.
Puis en plus, non seulement ça, mais c'est en train de se produire sous nos yeux. C'est une des conséquences du régime de Trump. C'est que l'Europe s'est fait plus ou moins envoyer promener par les États-Unis depuis que Trump est là. Puis il y a juste derrière eux, il y a la Chine qui est là. On a peur d'eux, un peu. Mais en même temps, écoute, si t'es capable de m'inverser le flux du commerce mondial en faisant en sorte qu'ils se tiennent dans la zone Eurasie. Écoute, ils sont en contrôle de l'économie mondiale.
Je l'ai dit, c'est ratoureux.
Plus que ça,
c'est ratoureux, ça, Luc, parce que...
C'est extrêmement ratoureux.
Parce que dans le fond, tu colles les Européens qui ont été historiquement, en particulier dans l'après-guerre, les partenaires militaires, stratégiques, commerciaux et tout le reste des États-Unis. L'OTAN a été créé autour de cette idée que l'Amérique et l'Europe ne font qu'un bloc.
L'Alliance Atlantique, appelons ça.
Voilà, explose. L'Alliance Atlantique explose.
Est en train d'exploser. Trump leur a dit qu'il voulait plus être là. Il retire graduellement ses troupes. Il veut qu'ils payent plus cher. Il les a envoyés promener, pour ne pas dire les envoyer chez tu sais quoi. Alors, je ne l'ai pas dit.
Non, non.
Et là, les Européens, ils sont devant ça. D'abord, l'Europe vit un déclin économique évident. Pour que la Chine s'enrichisse au point où elle s'est enrichie depuis 25-30 ans, l'Inde également, il a fallu qu'il y ait un transfert de richesse.
Alors, est-ce que c'est un peu ça? Ramène-moi au port de Québec. Est-ce que, dans le fond, c'est ce que tu nous as expliqué pour l'Europe, là, les investissements chinois, c'est un peu ce qui pourrait se produire avec le port de Québec? T'as un investisseur chinois qui est domicilié à Hong Kong, mais quand même, c'est un Chinois, bon. Et puis, Hong Kong, qu'est-ce que tu veux? C'est de plus en plus rattaché formellement à la Chine communiste?
C'est rattaché.
Bon. Alors donc, ouais, mais il y a encore un peu d'autonomie. Peu importe. Mais c'est un peu ça. Les autorités canadiennes, dans le fond, le gouvernement fédéral, craignent qu'à travers ces investissements, dans le cas du port de Québec, mais ça pourrait être ailleurs, un autre port, ça pourrait être n'importe quoi, il y a une influence chinoise qui s'immisce dans nos affaires?
La route de la soie, en soi, c'est fait pour l'Eurasie. Sauf que les Chinois ont déjà exprimé leur... Par exemple, ils voudraient construire un tunnel qui passerait sous le détroit de Bering pour relier l'Asie à l'Amérique, tu comprends, en haut, là, quand ça se retouche presque, proche de l'Alaska. Alors, ils veulent construire un tunnel là aussi. Alors, c'est... Comment fait-on pour avoir un pays ennemi, très agressif, puis je vais finir là-dessus, Bernard, dans le cas de la Chine, parce que hier, Xi Jinping n'a pas rien fait pour nous rassurer. Comment peut-on mettre nos infrastructures, c'est-à-dire le nerf de la guerre du fonctionnement d'une société, entre les mains d'un pays qu'on voit comme l'ennemi du capitalisme? La vraie question qui se pose.
Tu as d'un côté la démocratie, la force des idées, puis de l'autre côté, tu as l'argent.
Oui. Ben, à l'heure actuelle,
c'est l'argent qui gagne.
C'est l'argent qui gagne.
Certains diront que ça a toujours été l'argent qui gagne.
Xi Jinping, hier, il a parlé à un groupe de quelques milliers de militaires, puis il leur a dit... Soyez préparés et concentrez-vous sur la préparation à la guerre. OK?
C'est ça.
Et pendant ce temps-là, Taïwan, pour que les gens sachent, Taïwan, ça, c'est une île qui est juste au large de la Chine, qui faisait traditionnellement partie de la Chine. Mais quand il y a eu la grande révolution de 1949, Chiang Kai-shek, qui était à la tête du gouvernement qui a été renversé, s'est en allé là. Ça s'appelait l'île de Formose. Puis ils ont décrété unilatéralement une indépendance protégée par les États-Unis. Mais la Chine a toujours dit, cet endroit nous appartient et il ne reste que, on ne sait pas quand, mais on va aller le prendre un jour. Alors, les Américains se sont mis à aller de plus en plus à Taïwan et là, ils sont en train de compléter un contrat de vente d'armes qui comprendrait des drones et des missiles de croisière.
Pour protéger Taïwan d'une éventuelle invasion de la Chine communiste.
Voilà. Ils envoient des croiseurs américains. Il y en avait un qui était là hier. Tout proche des côtes de Taïwan, juste pour provoquer.
Si jamais il y avait une guerre entre les États-Unis et la Chine, ce qu'on souhaite pas, Taïwan pourrait être l'origine de cette guerre, pourrait être l'élément déclencheur.
C'est exactement ça, et je souligne au passage que le Canada, dans ses obligations internationales, va envoyer dans quelques semaines une frégate canadienne qui va se retrouver dans cette région pour participer à un exercice conjoint avec les forces américaines et japonaises.
D'accord.
Fait qu'on est peut-être un petit peu pognés dedans, nous autres aussi, d'autant plus qu'on a nos deux gars qui sont emprisonnés là-bas, puis qu'on a le cas de Meng Wanzhou.
Les deux Michael. Alors, on est-tu en train de mettre le doigt dans l'engrenage? Luc, on en reparle.
On en reparle avec plaisir.
Après la pause, Monsieur Boulay, Jean Boulay, le ministre du Travail, qui va venir nous dire ce qu'il va faire avec tous les chômeurs de la COVID. Dans un instant.